Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller. Tout de suite, le journal.
RMC, Apolline Matin.
De Thibaut de Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des vents à plus de 140 km/h, de gros cumuls de pluie et de la grêle. Les orages ont frappé l'Île-de-France. Hier, éprise de bref, mais intense. On l'apprend ce matin, un soldat de la Légion étrangère enlevé début août en Colombie, dans une région contrôlée par les rebelles de la guérilla, et des échanges musclés hier à Roland-Garros. Pas de tennis, mais un débat, le premier de la présidentielle, d'ores et déjà lancé entre les 7 prétendants à l'Élysée.
Le vent a soufflé très fort hier soir en Île-de-France.
Une rafale à 142 km/h enregistrée du côté de Chevru en Seine-et-Marne. C'est un record depuis la tempête de 1999. Des vents accompagnés de pluie et de grêle, arbres arrachés, rues inondées. Le chaos à l'heure où les travailleurs quittent le bureau. Amélie Courtet.
En quelques minutes, vers 18h hier soir, le ciel bleu laisse place à un véritable déluge.
Oh, c'est une tornade ! On voit plus rien !
La pluie et la grêle tombent si fort qu'on distingue à peine au-delà d'un mètre.
C'est quoi ce délire, mon balcon, là ?
Calfeutrés chez eux, les habitants regardent ce spectacle impuissant.
Mais c'est quoi ? Mais les tables, elles sont cassées !
Les chocs sont dehors, les pauvres !
Dehors, justement, des rues inondées comme à Champigny-sur-Marne.
Impressionnant, vous voyez bien la quantité d'eau. La dame, regardez la dame.
Sur la vidéo, l'eau lui monte jusqu'au mollet. Elle relève sa robe trempée.
La pauvre.
Plus loin, des arbres sont couchés sur les voitures, sur la route. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, le bus de Mamadou s'est retrouvé piégé entre deux troncs.
On se devait de garder le sang-froid par rapport aux voyageurs qui ont eu peur. Mais j'ai évité le pire.
Car en plein orage, le vent a soufflé une vitre.
Là, j'ai la vidéo.
Les débris de verre éclaboussent le sol, les sièges.
Regardez le monsieur. C'est au dernier moment qu'on lui a demandé de s'écarter. Voilà.
Mais ici, aucun blessé n'est à déplorer.
Heureusement pour nous, voilà.
Et des orages qui ont provoqué d'importantes perturbations dans les transports. 4 des 5 lignes de RER ont été perturbées ce matin. Les gares de Vitry et d'Ivry sur Seine sur la ligne C ne sont pas desservies, et ce jusqu'à 8h. Pagaille aussi sur le réseau SNCF, avec 4 heures de retard pour certains trains. 7 départements de l'Est sont toujours ce matin en vigilance aux orages. Vigilance canicule aussi en Corse. L'île est en proie aux flammes aussi. Une dizaine d'hectares brûlés du côté de Calenzana, où 7 habitations ont été endommagées. 3 personnes sont hospitalisées. Près de 470 morts. Le bilan s'alourdit dans la vallée de l'Himalaya, percutée par une immense coulée de boue. Les secours continuent de s'activer à la recherche de survivants. Plus de 1400 personnes sont toujours portées disparues, parmi eux 4 Français, selon les autorités népalaises. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, préfère lui rester prudent sur le nombre de Français qui manquent à l'appel.
La priorité, vous vous en doutez, c'est évidemment la mobilisation de notre réseau consulaire. On a ce qu'on appelle le fil d'Ariane, vous savez, c'est le registre de tous les ressortissants français dans chaque pays. Je crois de mémoire que c'est 80 ou 90 Français qui doivent être sur ce fil d'Ariane. Et de fait, comme vous le savez, un certain nombre de nos ressortissants manquent à l'appel. Et la situation, elle est vraiment suivie de très très près. Je ne veux pas en dire plus parce que des familles attendent, mais vous le savez, plus le temps passe en pareilles circonstances, plus évidemment on peut être pessimiste.
Et les autorités locales s'inquiètent désormais d'une nouvelle catastrophe, redoutant la rupture d'une retenue d'eau dans cette même région. On en vient à cette information qu'on apprend ce matin. L'enlèvement d'un soldat de la Légion étrangère début août en Colombie. Il s'agit d'un franco-colombien pris en otage, Romain Hougue, dans le sud-ouest du pays.
Oui, une zone contrôlée par la guérilla dans laquelle se trouvait ce soldat, José Holger Melochari, caporal engagé depuis 4 ans dans la Légion étrangère. Il s'était rendu dans son pays d'origine à l'occasion d'une permission. On ne connaît ni son état de santé, ni les conditions de sa détention. Les faits se déroulent le 6 août dernier, alors qu'il circule sur une route du département de Nariño. Le soldat est intercepté par des rebelles et pris en otage. Des rebelles qui appartiendraient, selon un rapport de l'armée colombienne, à un groupe dissident des FARC, groupe ayant rejeté l'accord de paix avec le gouvernement il y a 10 ans et appartenant au guérillero le plus recherché de Colombie. Les rebelles auraient décidé de kidnapper ce soldat au moment où ils se sont rendus compte qu'il appartenait à la Légion étrangère française, sans doute comme monnaie d'échange. C'est l'un des modes opératoires de ces groupes armés, le recours aux enlèvements pour extorquer de l'argent ou faire pression sur les autorités.
Il est 7h05 sur RMC. Sébastien Delogu est rentré chez lui.
Le député insoumis a été libéré tard hier soir, après plus de 8 heures de garde à vue, convoqué pour outrage à l'encontre de 3 policiers venus interpeller un suspect dans son immeuble à Marseille en début de semaine. À Caen, la piste de tension communautaire entre Tchétchènes et Afghans se précise, 2 jours après qu'un homme a volontairement percuté un groupe d'une dizaine de personnes au volant de son véhicule, faisant 2 morts. C'est ce soir que l'agence Fitch va réévaluer la note de la dette française. C'était à plus en mars dernier, la dette au cœur du débat à 8 mois de l'élection présidentielle. Il en était question hier lors du premier débat entre les 7 principaux candidats aux universités d'été du MEDEF. 3 heures d'échanges et de passe d'armes sur le thème de l'économie avec des candidats du bloc central, Romain Cluzel, qui ont tenté de se démarquer.
À commencer par Gabriel Attal, le candidat Renaissance s'est montré offensif pendant ce débat avec, à l'issue, une pique pour son rival Édouard Philippe.
Je veux réveiller cette campagne. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à endormir cette campagne pour qu'on parle pas du fond. Et moi, je vais me battre pour réveiller cette campagne, pour qu'on parle des vrais sujets qui concernent la vie des Français.
Des attaques entre les candidats, il y en a aussi eu pendant le débat. Édouard Philippe s'en prend à Jean-Luc Mélenchon sur la gestion de la dette.
Ce que vous êtes en train de dire, monsieur Mélenchon, au fond, revient à ça. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Je ne veux pas de ça. La France, elle a une parole, elle la tient et elle remet en ordre ses comptes.
Les candidats du Bloc central proposent tous de réduire les cotisations salariales ou patronales, ce que refuse le candidat insoumis.
C'est l'assemblée des magiciens. Vous ne voulez plus rien payer et vous renvoyez tout, mais à qui ? Qui va payer tout ce que vous venez de dire ?
Quant à Marine Le Pen, elle clarifie la position du RN sur les retraites. Elle souhaite un âge de départ à 62 ans avec 42 ans d'annuité. Et pour ceux qui travaillent avant 20 ans, un départ possible à 60 ans.
La fin des vacances, à 4 jours de la rentrée avec du monde sur la route, bison futé, voie rouge, ce vendredi sur l'ensemble du pays dans le sens des retours. Ce sera orange. Demain, un choc européen ce soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, 20h45 sur RMC, sans Dembélé au repos ni Barcola en partance pour Liverpool. Le PSG se déplace à Lille, deux clubs qui sont avec Lens fixés sur le nom de leur prochain adversaire en Ligue des Champions. Si le tirage s'avère compliqué pour le LOSC avec le Bayern et Arsenal, ce devrait être plus simple pour le PSG avec des adversaires bien connus des Parisiens. Aurélien Tiersin.
La plus belle affiche sera au Parc des Princes, PSG FC Barcelone, un classique des dernières saisons face à l'ancien club du coach parisien Luis Enrique et de son attaquant Ferran Torres. Le Barça s'est renforcé cet été avec le champion du monde espagnol et Ballon d'Or 2024, Rodri. Autre choc, Paris ira à Manchester City qui digère le départ de son entraîneur Pep Guardiola. Ensuite, le PSG recevra l'AS Rome, les Turcs de Galatasaray, les Slovaques de Bratislava. Puis les déplacements ne seront pas simples à Aston Villa, que Paris a déjà battu en Supercoupe d'Europe, à Villarreal, puis en Italie, à Côme. Paris qui visera une troisième Ligue des Champions de suite, exploit réalisé uniquement par le Real Madrid de Zidane au XXIe siècle.
Et place désormais au tirage de Ligue Europa ce midi pour Marseille, Lyon et Rennes, Monaco également fixé après sa qualification hier soir en Ligue Conférence. Et puis on est à 15 jours du premier concert ce matin de Céline Dion. Elle est attendue à Paris ce vendredi selon nos confrères du Figaro. La star canadienne doit résider au Royal Monceau, célèbre palace de la capitale.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Hier, des échanges parfois musclés entre candidats. Ils étaient 7 face au patron aux universités d'été du MEDEF. Il y a eu quelques applaudissements, beaucoup de concentration, un peu de rire parfois. Édouard Philippe qui a interpellé Jean-Luc Mélenchon en lui disant « calmez-vous ». On a vu effectivement l'intensité, mais globalement, 3 heures d'un débat de très haute tenue parce que la question économique, elle s'est clairement invitée dans cette campagne. Bonjour Julie Neuville, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui étaient aux premières loges hier. Vous avez vous-même interpellé les différents candidats. Vous ont-ils convaincu ? Vous êtes à la tête d'une entreprise qui produit du béton décarboné. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Emmanuel a suivi aussi ce débat de manière très très attentive.
Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un point d'accord qui est le constat désastreux des finances publiques au départ. Et après, beaucoup de clivages, quelques surprises, et puis des gagnants et des perdants.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une évidence, c'est qu'il y a un blocage sur la question des salaires. Le monde de l'entreprise et le monde des salariés, sont-ils encore capables de se parler ?
On vous pose aussi la question à vous au 32-16. N'hésitez pas, venez justement nous dire ce que vous avez pensé de cette entrée en campagne politique, mais aussi économique. Et cette chef d'entreprise qui, dans un instant, nous dira si elle a été convaincue. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13, excellent réveil à tous, c'est vendredi. On est ensemble jusqu'à 9h et vous l'avez peut-être écouté, c'était long, 3 heures d'échange, mais de très très grande tenue. Hier, les 7 principaux candidats ont répondu au patron du MEDEF. Bonjour Julie Neuville, vous êtes la présidente de Materu, c'est une entreprise de béton, vous avez 20 salariés et vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui ont interrogé directement les 7 candidats. Qu'en avez-vous retenu ?
C'est un début, c'est un lancement de campagne. Ce qu'on attendait en tant que chef d'entreprise, et particulièrement pour ma part, c'était des chiffres concrets, des propositions de réforme, de loi, de simplification, de règlement très pragmatiques.
Vous en attendiez ça ? L'avez-vous eu ?
Alors, très peu. Très peu, de façon assez inégale. Moi, c'est vrai que je dirige une entreprise qui produit du ciment bas carbone. C'est très concret. C'est une usine dans l'industrie lourde. On est nativement bas carbone. Donc, on est dans la décarbonation. Et j'attendais des réponses très précises sur ces sujets.
Sur industrie, écologie, respect,
exactement, sur compétitivité. Aujourd'hui, quand on produit comme nous un produit qui est totalement substituable et au même prix, mais qu'est-ce qui se passe pour nous dans l'industrie française ? Voilà, comment on fait pour implanter des usines ? Aujourd'hui, on déploie 10 usines en France et en Europe. Pour moi, la question, c'était pourquoi je l'implante pas dans un autre pays européen plutôt qu'en France ? Et j'ai pas eu de réponse
là-dessus,
claire.
Vous n'avez pas eu de réponse ?
Il y a quand même des clivages qui sont apparus, moi je trouve, de façon assez assez forte. On a eu les clivages sur les retraites par exemple, clivages sur les droits de succession, c'est-à-dire entre ceux qui disent il faut plus ou moins. Et puis alors j'ai été surpris de voir même des clivages par exemple sur la simplification. C'est-à-dire qu'il y a quelques candidats.
Ça veut dire que tout le monde n'est pas pour la simplification ?
Il y a des candidats comme Jean-Luc Mélenchon qui ont dit attendez, les normes c'est indispensable. Il y a Édouard Philippe qui a dit attendez, les normes au départ, il y a quand même des gens qui les réclament. Donc voilà, et donc finalement, moi j'ai
trouvé... Et puis il y a Bruno Retailleau, écoutez ce qu'il disait justement sur les normes.
Pas de surtransposition européenne, et j'assume de modifier la Constitution pour supprimer le principe de précaution. Je veux qu'on soit dans une société qui entreprenne, qui prenne des initiatives.
Est-ce que ce point-là vous a convaincu ?
Oui et non, je pense que de parler de façon très générale à l'ensemble des chefs d'entreprise sur l'ensemble de l'économie ne répond pas aux enjeux pragmatiques et concrets que nous avons dans nos filières.
Voilà. Sur la question de l'Europe aussi, il y a eu cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Nous désobéirons à l'Union européenne lorsque ça va à l'encontre de ce qu'ont décidé ou choisi les Français. » Du point de vue démocratique, pour le coup, ça s'entend ?
Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bon, après, ce que oublie un peu Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'Union européenne permet aussi à la France de gagner énormément d'argent. Donc là aussi, il y a une part de déni du réel. Mais moi, je voulais parler avec vous d'un moment qui m'a beaucoup frappé et je trouvais que ça planait sur les débats. C'est donc quand Jean-Luc Mélenchon a proposé d'augmenter les salaires. En l'occurrence, il parlait du SMIC, mais les salaires en général. Et il y a eu spontanément une explosion de rire dans la salle.
Vous savez quoi ? On va l'écouter justement, Jean-Luc Mélenchon face au patron.
Les salaires, ben, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC. Si vous n'augmentez pas les salaires, vous ne rigolerez pas longtemps, parce que vous aurez la récession. Alors vous rirez jaune si vous ne partagez pas davantage. Et là...
On a l'impression que c'est un one-man show. Hein. Alors pourquoi est-ce que c'est si drôle ? Je comprends très bien que les patrons aient beaucoup de mal à augmenter les salaires et qu'ils n'aient pas l'argent pour le faire. Ça, on sait qu'il y a des charges lourdes sur les salaires, je le conçois. Mais il faut aussi voir que les salariés en France sont très mal payé, et ça s'est relevé dans toute l'Europe. Comment est-ce que ces deux mondes, celui des patrons et celui des salariés, peuvent encore se parler, alors que les deux, apparemment, ont des intérêts contradictoires, mais en même temps qu'ils pourraient converger ?
En fait, vous n'avez pas un peu honte de ce moment-là, en vrai, si on est tout à fait honnête, vous en tant que patron ?
Je ne sais pas quoi en penser. C'est encore très à chaud. C'était hier soir, on était dedans et pas extérieur.
Que spontanément, quand un homme politique vous dit qu'il faut augmenter les salaires, la salle des patrons ricane. Honnêtement, mais est-ce que vous trouvez que ça a
augmenter les salaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le niveau de charge qu'il y a derrière ? Et aujourd'hui, en tout cas, ce que moi je peux vous retranscrire comme message, c'est que en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas contre mes salariés, contre mes collaborateurs.
Mais c'est un peu le sentiment que ça donne.
Bien au contraire.
Ce moment-là, il n'est pas à votre honneur.
Alors, Voilà, je peux pas parler pour l'ensemble des patrons, mais ça vient stigmatiser.
Oui, rire, j'ai plus de mal.
Oui, en tout cas, ce que je pense profondément, c'est qu'il ne faut pas caricaturer de la même façon que transition écologique ne s'oppose pas à industrie, ne s'oppose pas à compétitivité. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre usine.
Ce que je veux dire, c'est qu'hier, les patrons se sont caricaturés eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on leur dit non, qu'augmenter les salaires et que vous
Marine
en
Tondelier,
riez,
elle a dit le SMIC à 2000 euros, personne n'a rigolé.
Mais alors, c'est d'autant plus étonnant.
Oui, mais c'est parce que si vous voulez, c'est plus comme quelqu'un vous sert un petit peu ce que vous attendiez quand vous venez au spectacle pour voir quelque chose et que Jean-Luc Mélenchon joue son meilleur tube et que voilà, mais parce que tout le monde sait très bien que c'est totalement, déraisonnable.
Marine Le Pen était très attendue. Par les patrons sur la clarification de son programme économique, notamment sur la question des retraites et sur ce grand plan qu'elle a annoncé, grand plan d'économie, 125 milliards d'euros pour l'État, et elle veut aussi supprimer les impôts de production. Écoutez.
La réindustrialisation, elle passera aussi par d'autres leviers essentiels. D'abord, un choc de compétitivité. Le choc de compétitivité, il va être fiscal. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les impôts de production.
Et on vous voit justement à l'image, hein, quand on regarde les images de ce moment-là. Julie Neuville, est-ce que, de ce point de vue-là, vous accueillez ce plan d'économie favorablement ?
Quand il sera chiffré,
voilà,
daté, je crois qu'un des éléments importants, c'est de la visibilité sur les prochaines années. Parce que d'annoncer des réformes, les effets d'annonce, on les connaît, on en a déjà eu beaucoup sur tous les sujets, pas que sur l'économie hein, d'ailleurs. Et 6 mois après, finalement, on revient dessus, ou ça change à nouveau. On a besoin de visibilité sur 5 ans, 10 ans. Et quand on parle d'industrie, quand on parle de transition écologique, on est sur un pas de temps qui n'est pas le pas de temps de l'élection politique, qui est un pas de temps.
C'est la difficulté, on le sent, la difficulté à se projeter, la difficulté des patrons à prendre des décisions d'investissement ou non, sans savoir exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a cette question notamment de la visibilité aussi sur la dette. Il y a eu un échange assez marquant entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon autour de la dette. Écoutez.
Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Je ne veux pas de ça.
Et Jean-Luc Mélenchon qui lui a dit mais vous n'avez pas compris exactement ce que je disais, je ne parlais que d'une partie de la dette. Mais effectivement, la dette, elle était aussi au cœur des réflexions.
La dette est au cœur des réflexions de chacun, patron et
c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de macroéconomie en fait hier.
Tout à fait.
Et vous n'avez sans doute
c'est
pas eu.
C'est un petit peu votre déception
dans votre quotidien.
Tout à fait.
Les réponses que vous attendiez sans doute sur votre vie, ce qui environne votre vie.
On avait 5 questions très précises, volontairement très précises, très pragmatiques.
C'est que le début de campagne en même temps.
Et les réponses n'ont pas été.
Exactement. Et aujourd'hui, dans nos entreprises au quotidien, on ne fait pas de la politique. On produit, on fait du service, on accompagne, on doit...
Vous produisez, Julie Neuville, et justement une dernière question, vous qui êtes à la tête d'une entreprise dans les Landes de béton et ciment décarboné. À 7h40, tout à l'heure, l'invité du vendredi, ce sera le ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que vous avez à lui dire au ministre de l'Industrie ?
Comment aujourd'hui, quand on souhaite, comme nous, ouvrir 10 usines en France et en Europe, comment on reste encore en France quand
comment
les délais,
on restera
sinon,
encore en France, en quelque sorte.
Voilà, et pourquoi on ne va pas dans les autres pays ? Donc, c'est savoir quelle est la bonne raison pour rester en France, si ce n'est d'être convaincu d'avoir une technologie française, de vouloir rester en France. Quels sont aujourd'hui les quelques maigres arguments ?
Vous n'avez pas envie de faire plaisir, effectivement, à la France ou
voilà, de façon très rationnelle, pourquoi rester en France ?
De patriotisme. Pourquoi rester en France ? Je lui poserai la question pour vous, c'est promis. Sébastien Martin, donc le ministre de l'Industrie, qui sera l'invité du vendredi à 7h40. Merci d'avoir été avec nous, Julie Neuville. Je rappelle que vous êtes à la tête de Materu, c'est une entreprise donc de ciment et béton décarboné. Il est 7h22, on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. C'était mercredi soir, des affrontements après la défaite de l'Olympique Lyonnais en match de barrage pour la Ligue des Champions. Tout est parti de l'attitude d'un joueur adverse et vous vouliez revenir là-dessus.
Ben oui, ce joueur c'est Matteo Guendouzi, hein, le français du Fenerbahçe. Il a lourdement chambré les Lyonnais, mais les champions de la provocation à Pauline, ce sont les Argentins et ils ont déjà été très très loin.
Et vous allez nous le raconter dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive, ne bougez pas, il est 7h22.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, excellent réveil à tous sur RMC. Comme chaque jour, on remonte l'histoire avec notre historien Arthur Chevalier. Arthur, la polémique autour du français Matteo Guendouzi continue. Avant-hier, l'ancien Marseillais a multiplié les provocations envers les supporters lyonnais pendant un match de barrage de Ligue des Champions.
Et le joueur du Fenerbahçe y a été très fort. De l'échauffement jusqu'à la fin du match, il a provoqué les supporters lyonnais, alors en faisant des doigts d'honneur, en criant des « Allez l'OM ». Il a continué à la fin de la partie en célébrant avec outrance la victoire devant les joueurs de l'OL. Tout ça s'est fini en bagarre générale entre les deux équipes à la sortie du terrain. Et pour justifier son geste, Guendouzi a déclaré que les supporters avaient insulté sa famille. Bon, quoi qu'il en soit, les deux clubs risquent des sanctions.
C'est pas la première fois qu'un joueur se met à dos tout un stade.
Non, et il y a un épisode d'Apolline qui est devenu alors vraiment légendaire. Le voici, nous sommes le 23 juillet 1966 au stade de Wembley à Londres, où se joue un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. C'est la 35e minute et le capitaine argentin, Antonio Ratin, est expulsé pour un très vilain geste par l'arbitre, un arbitre allemand, sauf que à l'époque, il n'y a pas de carton jaune ni de carton rouge. Donc l'arbitre lui signifie son expulsion à l'oral. Seulement voilà, le joueur argentin ne parle ni l'anglais ni l'allemand et l'arbitre, lui, ne parle pas l'espagnol. Donc les deux ne peuvent pas se comprendre.
C'est le début d'un psychodrame.
Ah bah exactement, c'est absurde. Le capitaine argentin reste sur le terrain, il ne comprend pas ce que dit l'arbitre. Il réclame un interprète, je ne sais pas si vous imaginez la scène sur un terrain de foot. Le public se met en colère, les joueurs anglais aussi, la pression monte. Wembley se transforme en chaudron, les sifflets et les insultes fusent finalement. Le joueur argentin va quitter le terrain, escorté par la police sous les brancards de la foule.
Et ça ne s'arrête pas là.
Et non, puisqu'en quittant le terrain, l'Argentin va faire un geste, mais alors là, sacrilège, il va s'essuyer les mains sur le fanion du poteau de corner sur lequel était représenté l'Union Jack, c'est-à-dire le drapeau de l'Angleterre, donc il s'est essuyé les mains dans le drapeau de l'Angleterre, et il va aller encore plus loin en s'asseyant sur le tapis rouge qui était réservé à la reine d'Angleterre, cette fois-ci. Donc au total, une interruption de 23 minutes, l'entraîneur anglais était tellement scandalisé qu'à la fin du match, il refuse que ses joueurs échangent leur maillot avec les Argentins, qu'il va d'ailleurs qualifier d'animaux. Donc vous voyez, la réputation de mauvais perdant de l'équipe d'Argentine ne date pas de la dernière Coupe du Monde. Et c'est à l'issue de ce match qu'on a inventé les cartons jaunes et les cartons rouges.
Eh bien, formidable. Voilà. Merci Arthur. Les rivalités dans le sport ne datent donc pas d'hier. Arthur Chevalier, à tout moment, évidemment, en direct avec nous jusqu'à 9h. Mais quand vous voulez aussi, en podcast sur l'application RMC. Il est 7h26, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour. Arnaud, ce matin à 8h30, je reçois un candidat à l'élection présidentielle, maire de Cannes, David Lisnard.
Oh, et pourquoi ? Mais pourquoi ils se présentent tous, sérieux ? On en a assez des candidats.
Ils sont nombreux.
David Lisnard, en plus, il devrait attendre 2031. David est jeune, attends. Voilà, cette chronique sur les chapeaux de roue. Vous pensez que je peux demander une augmentation cette année?
Moi, je pense que là, vous êtes...
En plus, vouloir être président quand t'es juste maire de Cannes, oh, hey, ça va, quoi. Le mec, son taf, c'est de faire des compliments à des mamies marrons, tellement elles sont cramées par le soleil. Et une fois par an, ok, il doit placer des barrières devant Pierre Ninet. Wouh! Ça me paraît un peu léger pour te dire « Et maintenant, la France !» Commence par Corbeil-Essonne, déjà. Vous savez que je ne suis pas seul à penser ça. Hier, le MEDEF recevait les candidats à la présidentielle pour un grand débat. Et Lisnard, l'ultra-libéral, le grand ami des entreprises, eh ben, il n'était même pas invité. Voilà, il est moins important aux yeux du MEDEF que Marine Tondelier qui leur crache dessus à longueur de temps. Et alors, David Lisnard, il lance son université d'été ce week-end intitulée « La gagne ». T'es à 2%, gros, reste calme. C'est comme si Bayrou avait appelé les siennes le sexe à pile. Et alors, il y aura des intervenants célèbres. Vous retrouverez Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, le streamer jeu vidéo Sardoche, et Véronique Geneste, Julie Lescaut.
Oh,
elle sera là. Donc il y aura un vieux ringard, un influenceur et une actrice TF1 des années 2000. C'est Danse avec les stars, son
peu. Attendez, s'il est dans le couloir, il va refuser l'interview. Là,
bah,
il vient plus. Non, il fait deux
métaux. Moi, je fais mon travail. Après, non mais alors je vais lui faire un compliment.
Allez-y.
Un compliment, c'est vrai qu'à côté de Glucksmann, Cazeneuve ou Édouard Philippe, il a un vrai côté Tom Cruise, ultra-libéral, du charisme, sourire Colgate, beau gosse et tout. D'ailleurs, heureusement qu'il est dans votre face-à-face, Apolline, et pas sur BFM Business avec Edwige Chevrillon.
Ok, bonjour. Et ce matin, nous recevons David Lisnard. Bonjour. Bonjour madame, mademoiselle. Alors, votre programme.
Écoutez, je pense qu'il faut libéraliser la société française, faire sauter les normes, remettre plus de moyens de production. Vous m'écoutez là?
Pardon, excusez-moi. Je me noyais dans vos yeux.
Continuez, pardon. Je disais, j'ai pour ambition de réduire les coûts pour les entreprises, revoir le système social qui met
Manu va être jaloux, hein.
Des menottes aux libéraux. Attendez. Oh, c'est pas bien j'arrive, de mettre j'arrive. Des menottes aux libéraux. C'est très vilain. Eh bien, merci, David Lisnard.
Moumoune, pour ma chronique. Je rentre en plateau dans 2 minutes.
Ciel, mon le chiffre. Cachez-vous sous la table, David. Partez. Oh, adieu. Un jour, mon prince viendra. Emmanuel, je ne veux pas vous briser le cœur. Je croyais de la concurrence quelque part. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours à 7h20 et à 8h15. Il est 7h29. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. La coulée de boue survenue mercredi dans la vallée de l'Himalaya a fait au moins 472 morts selon un dernier bilan. Des orages accompagnés de fortes pluies et de grêles ont occasionné des dégâts sur plusieurs parties du pays. Et puis à quoi va ressembler GTA 6, le studio Rockstar a partagé hier soir une première vidéo du jeu et ça donne envie.
Au moins 472 morts au Népal et en Chine.
1400 personnes restent-elles portées disparues. Plus tôt ce matin, le Népal disait tenter de localiser une centaine d'ouvriers coincés dans un tunnel d'un chantier. Côté chinois, les autorités ont annoncé suspendre les opérations de secours à cause de la menace de nouvelles coulées de boue. Les habitants sur place, eux, qui restent sans nouvelles de leurs proches, se sentent impuissants, Célestin Bougère.
Terry est français, il habite au Népal depuis plusieurs années. Il organise des voyages, notamment dans la région touchée du Langtang. Depuis 2 jours, il tente de joindre ses amis, ses collaborateurs qui étaient sur place, mais ses appels restent sans réponse.
On connaît une dizaine de chauffeurs indépendants qui attendaient des clients à la frontière tibétaine et ça me file les frissons rien que de penser ça, mais on voit pas comment ces gens-là ont pu survivre. La majorité des corps se sont retrouvés à des kilomètres au sud. Il y a des familles qui ont tout perdu et qui ne sauront peut-être pas où sont leurs proches.
Sur place, les villages sont difficilement reconnaissables. Les habitations colorées ont laissé place à un terrain boueux.
Un gérant d'hôtel a timoulé, il a pris un hélicoptère pour survoler son hôtel, son village. Bah, il ne sait pas où est son village parce qu'il ne reste plus rien.
Mohan est guide touristique dans le Langtang. Il est très ému depuis la catastrophe.
Ça fait vraiment la peine de voir tout ça parce que c'était vraiment magnifique. Maintenant, c'est transformé comme des sables, des tas de pierres. Voilà.
Et maintenant, c'est la formation d'un lac en altitude sur les lieux de l'inondation qui inquiète. Les autorités népalaises craignent une rupture et une nouvelle vague qui pourrait provoquer des dégâts dans le bas de la vallée.
Un soldat de la Légion étrangère française aux mains de la guérilla colombienne. Il a été enlevé le 6 août dernier alors qu'il était en permission en Colombie. C'est l'armée colombienne qui l'a annoncé ce matin. Le caporal José Olrer Melo Chari est engagé dans l'armée française depuis 4 ans. Le Quai d'Orsay n'a pas encore réagi à cet enlèvement. De violents orages ont frappé l'Île-de-France hier. En début de soirée, des intempéries qui ont occasionné d'importants dégâts et de sérieuses perturbations dans les transports. De violents orages également rapportés dans le Doubs et auxquels a été confronté Philippe. Il roulait sur l'autoroute A36 entre Bâle et Besançon quand le vent a commencé à se lever et les grêlons à tomber. Sa voiture a été durement touchée.
C'est devenu très brutal. En 2 secondes, une tempête de grêlons de la taille d'une balle de tennis. Le véhicule était entièrement détruit. J'ai un pare-brise sur le toit en verre. Tous les grêlons passaient à l'intérieur et ma seule protection, mon réflexe, était de prendre le sac de voyage que j'avais à côté de moi pour me le mettre sur la tête.
Fin de la garde à vue pour Sébastien Delogu. Il a été libéré hier soir. Le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône était entendu au commissariat central de Marseille après une altercation avec des policiers en début de semaine. Il sera convoqué pour outrage le 13 novembre prochain. Si l'enquête judiciaire suit son cours, cette polémique en pleine campagne présidentielle agace les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, Cyprien Pézeril.
Oui, plusieurs insoumis contactés sont partagés, dénonçant, je cite, un acharnement des policiers, mais reconnaissant aussi, je cite toujours, que Sébastien Delogu est quelqu'un d'entier et de sanguin. Voilà en tout cas le genre de séquence dont les dirigeants LFistes se passeraient bien. On nous a demandé d'être focus sur la présidentielle et d'éviter les polémiques, confie une députée. Depuis quelques semaines, Sébastien Delogu est tenu à bonne distance du noyau dur mélenchoniste. Il n'a par exemple pas été prévenu en juillet d'un événement de campagne qui se tenait dans sa circonscription. Et si d'ordinaire les insoumis font bloc dès que l'un d'eux est en difficulté, aucune réaction publique de Jean-Luc Mélenchon depuis la révélation de l'altercation mardi dernier. Mais pas de quoi non plus faire vaciller la machine insoumise. Un ami de Sébastien Delogu en est convaincu. Évidemment que la droite se délecte de ça, mais je ne crois pas que ça fasse fuir les électeurs de gauche.
7h35 sur RMC. Il n'appartient pas au maire d'annuler un concert.
Et déclaration du maire d'Orléans à propos de Patrick Bruel, alors que deux représentations du chanteur sont programmées dans sa ville pour le mois d'octobre. L'artiste visé par 32 plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle a été mise en examen dans 4 dossiers. Il entame une tournée à l'automne dans 32 villes dont la majorité s'oppose désormais à sa venue, Solène Leroux.
Oui, et auprès de RMC, 3 nouvelles mairies de tous bords politiques demandent désormais à Patrick Bruel d'annuler sa venue. Une autre préfère ne pas se prononcer, rester neutre. Une position défendue par une petite dizaine de communes qui évoquent souvent la présomption d'innocence ou encore le fait de ne pas vouloir se substituer à la justice. C'est le cas du maire d'hiver droite de Toulouse qui nous dit refuser toute nouvelle expression face à la pression de ses opposants et de la presse. Quelle que soit leur opinion, ces maires se retrouvent sur un point, sans trouble à leur ordre public avéré, impossible pour eux d'annuler ce concert, quand bien même il se passe dans leur ville. Mais pour un élu, peu importe, c'est maintenant qu'il faut mettre la pression.
Et je vous attends au 32-16. Venez vous aussi réagir. Dites-nous, est-ce qu'il faut, oui ou non, interdire ces concerts de Patrick Bruel, le fils de Gisèle Pellicot? David Pellicot sera avec nous à 8h10. Un véritable coup de gueule plus qu'un parti de pris, puisqu'il estime qu'il faut que les hommes s'engagent aussi contre les concerts de Patrick Bruel. Vous l'entendrez à 8h10, mais je vous attends au 32-16.
C'est le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Les fans de GTA ont pu avoir un premier aperçu du 6e opus qui sortira le 19 novembre prochain, une présentation d'un peu moins d'une demi-heure qui révèle les personnages principaux et la mécanique du jeu, Romain Houille.
Oui, et dès les premières secondes, on retrouve tout l'univers qui a fait le succès de la franchise. Alors la vidéo commence avec un couple de malfrats. Les personnages principaux, Jason et Lucia, sortent de Bonnie and Clyde à la sauce GTA, surpris dans un laboratoire clandestin de drogue par une intervention policière qui évidemment tourne très vite à la fusillade, bagarre, explosion, course-poursuite, virée dans un club de striptease ou à bord d'un yacht. Tout y est, avec une qualité de graphisme jamais vue. On se croirait presque au cinéma. Sur les réseaux sociaux, les fans sont pour beaucoup dithyrambiques après avoir vu les premières images du jeu vidéo le plus attendu de l'année, voire de la décennie. 13 ans se sont écoulés depuis la sortie du dernier opus. Des fans qui ont carrément fait planter Netflix hier soir, tant ils étaient nombreux à se connecter pour découvrir ce trailer.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. On va terminer avec un mot de football. Début de la deuxième journée de Ligue 1. Aujourd'hui, Lille joue contre le PSG à 20h15, ce sera à suivre sur RMC évidemment.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Cabourg, 20h15.
Oui, le pronostic de RMC, c'est le suivant. Le favori, c'est le 7 Kate Bless, l'outsider, c'est le 9 Kashkai.
Le 7 et le 9, c'était le journal de Grégoire Morelli. Et attention, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit prime de rentrée. C'est le moment de faire tourner la roue. Je vous explique, la prime de rentrée, elle était au départ de 25 000 euros. Et puis, on l'a fait monter à chaque fois qu'on fait tourner la roue. Et il va falloir retenir ce montant. Alors attention, pas celui de 26 500. Ça, c'est au moment où on se parle, à 7h39 et 03 secondes. Mais dans un instant, eh bien, elle va monter, cette prime. Regardez, je tourne la roue. Et attention, c'est le gros suspense. J'espère que je vais vous faire gagner beaucoup d'argent. Et oui, non, ça a failli être 1500 euros, ça s'est arrêté sur 125. Bon allez, c'est déjà pas mal, 125 qu'on rajoute donc aux 26 500, je suis nulle en maths, ça fait 26 625, voilà, 26 625. Retenez bien ce montant, c'est mon moment roue de la fortune, 26 625, parce qu'à tout moment, on peut vous appeler, vous demander quel est le montant de la prime de rentrée, et si vous le savez, elle est pour vous. Vous envoyez votre numéro, vous inscrivez prime au 7-32-16 par SMS. Prime au 7-32-16 par SMS. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire et à tout moment, on peut vous appeler. Bonne rentrée à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h40, le grand invité du vendredi. C'est vous, Sébastien Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie. On avait tout à l'heure une patronne d'entreprise. Elle a 20 salariés, elle veut ouvrir 10 usines. Et elle avait cette question, elle disait, mais pourquoi rester en France? Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir lui répondre pour la convaincre. Mais vous aurez le temps aussi de nous expliquer s'il y a véritablement une désindustrialisation ou non. Comment on fait face à la Chine? Comment on fait face à la Russie? Comment vous adressez aux patrons, petits patrons, commerçants, industriels, bâtiments qui nous écoutent ce matin et d'ailleurs qui viendront directement vous interpeller? N'hésitez pas, vous connaissez le chemin, le 3216 et le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Manu Le Chypre aura aussi des questions pour vous. 7h40, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44. Tiens, n'oublions pas, vous le savez, il y a une somme à gagner, la prime de rentrée, 26 625 euros qui sont en jeu. Il est 7h44, il vous reste précisément 5 minutes pour vous inscrire et la gagner. Vous envoyez prime au 7-32-16, prime au 7-32-16. Et le montant, il faut le retenir parce que si on vous appelle et que vous connaissez le montant de la prime, elle est pour vous 26 625 euros. 7h44.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Du lundi au jeudi, un jour, une proposition politique concrète, droite, gauche, Charles Consigny, Cécile Duflo. Et le vendredi, eh bien, c'est le grand invité du vendredi et c'est vous, Sébastien Martin. Bonjour.
Bonjour.
Ministre de l'Industrie, on va évidemment prendre le temps avec vous de comprendre comment va notre industrie et vous allez essayer de nous convaincre pour nous dire qu'elle a encore des atouts. C'est surtout les chefs d'entreprise qu'il faut convaincre. On en avait une, en l'occurrence, il y a quelques minutes ici même. Elle était aux premières loges hier pour interroger les patrons qui étaient face au MEDEF. Et quand je lui ai dit que je vous recevais, elle qui est à la tête d'une entreprise de 20 salariés, du ciment dans les Landes, vous l'avez vu, elle a dit, moi j'ai 10 entreprises, 10 usines que je voudrais créer et franchement, je ne sais pas pourquoi je les créerais en France.
Bah, peut-être d'abord parce que la France, visiblement, continue à attirer des usines et des entreprises. On a été le premier en 2026, pardon, pour la 7e année consécutive, le pays qui a attiré le plus d'investissements étrangers. J'ai vu le baromètre Trendéo qui est sorti il y a quelques jours. On a un niveau d'investissement industriel sur le premier semestre 2026 qui est bien supérieur à ce qu'on connaît depuis la moyenne depuis 2009. Et puis, dans son secteur particulier, elle est un secteur de la cimenterie décarbonée. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent pour accompagner ce type de projet en France et qui d'ailleurs n'existent pas ailleurs et que certains pays nous envient. Donc je pense que si cette personne a une envie de porter des projets comme cela, c'est bien en France qu'il faut qu'elle les fasse.
Alors en Europe peut-être,
mais il y a
aujourd'hui une déferlante qui vient
de mais Chine. Les cimenteries servent le marché local en général.
Qui servent le marché local, mais plus largement on voit bien aujourd'hui qu'il y a une déferlante chinoise sur tout.
On va y venir dans un instant parce que j'aimerais bien qu'on écoute, ça a été vraiment au cœur des débats hier, la question de la Chine. Mais effectivement, un patron ce matin qui nous écoute et qui se dit « je voudrais essayer de monter des entreprises », est-ce que sa principale préoccupation, c'est pas aussi la question du coût du travail? Ils sont nombreux à l'avoir dit hier et on a entendu ce moment fou où Jean-Luc Mélenchon disait « faut augmenter les salaires » et où les patrons ont ri.
Les patrons ont ri parce que eux, ils sont dans la réalité. Ils sont dans la réalité et qu'on n'augmente pas les salaires par décret. On augmente les salaires quand l'activité économique permet de le faire. Excusez-moi, permettez-moi de le dire, mais si on pense qu'en effaçant de la dette et en ramenant la retraite à 60 ans qui fera augmenter les cotisations sociales, on va pouvoir augmenter les salaires, on se gourre complètement.
Il y a Mickaël qui est au téléphone avec nous, il nous a appelé au 32-16 depuis le Nord. Vous êtes chef d'entreprise dans l'informatique, vous entendez la réponse à l'instant du ministre de l'Industrie. Vous, si vous aviez été face à Jean-Luc Mélenchon hier qui dit il faut augmenter les salaires, ou ce matin comme vous l'êtes face au ministre de l'Industrie, vous ririez jaune ou vous pleuriez?
Moi, je pense que je pleurerais parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dirigé d'entreprise. Il a gagné son argent juste en politique toute sa vie, donc il ne sait pas ce que c'est. Moi, je vais vous donner la réalité. Et monsieur le ministre, bonjour. Bonjour à Pauline.
Bonjour.
Alors, moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai 11 salariés. À chaque élection, on me dit on n'augmentera pas les charges, on n'augmentera pas les charges. Et au mieux, on nous dit on les baissera. Alors c'est vrai que vous n'augmentez pas les charges. Pas les charges directes, parce qu'ils ne se voient pas dans les chiffres. Par contre, derrière, ce que vous nous demandez, c'est, il y a quelques années, c'est de participer à la mutuelle, donc participer à 50% de la mutuelle des salariés. C'est une très bonne chose. Il y a 5 ans, je payais 38 euros. Mais en même temps, vous avez déremboursé plein de choses sur la sécu. Les mutuelles nous disent on est obligé d'impacter ça. 5 ans après, je suis passé de 38 à 85 euros. On m'a résilié ma mutuelle en décembre dernier parce que c'était pas rentable. On nous demande de participer au transport, mais tout ça se voit pas dans les chiffres. Alors vous nous dites on n'a pas augmenté les charges. Oui, mais vous nous faites payer ailleurs. Ce n'est pas une charge. Vous manipulez les chiffres, c'est inadmissible. Inadmissible. Moi non plus, j'ai plus confiance. Je n'ai plus envie de développer mon entreprise en France. Je suis en concurrence avec des sociétés informatiques qui travaillent à distance, comme on le fait en France avec le télétravail, et qui n'ont pas ces obligations-là. Comprenez-le.
Je voudrais qu'il puisse vous répondre, le ministre de l'Industrie, Mickaël.
Mais d'abord, ce que vous dites, je le comprends parfaitement. La volonté d'un chef d'entreprise, c'est pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre, de ne pas payer ses salariés, de ne pas leur apporter des services ou quoi que ce soit. La volonté d'un chef d'entreprise, c'est plutôt de pouvoir augmenter ses salariés quand il le fait. Je voudrais juste rappeler quand même que il y a eu un moment la baisse des cotisations sociales de la branche famille, que la CVAE a été divisée par deux, que l'impôt sur les sociétés a été ramené de 33%
à 25%. Est-ce que ça compense, ça, Mickaël ? Est-ce que
je ne sais pas si ça compense. Et honnêtement, je suis pas là pour faire le catalogue et dire à Mickaël qu'il adore et que moi j'ai raison.
Je vais vous dire, Sébastien Martin. Je pense que Mickaël, il le regarde sous par sous, le catalogue.
Bien sûr.
Et ligne par ligne, Mickaël.
Mais ce sont des baisses communicantes, vous baissez d'un côté pour augmenter de l'autre, vous changez les noms et vous n'annoncez que les baisses, les augmentations jamais. Donc c'est un peu facile, ce n'est que de la com. Et on n'a plus confiance, je vous le dis pour vous, arrêtez la com, redonnez-nous confiance avec des actes.
Est-ce qu'il y a des points, Mickaël, hier, je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter tout ou partie du débat hier, est-ce qu'il y a des points qui vous ont convaincu, où vous vous êtes dit, tiens, ça c'est un vrai changement, oui, ça répond vraiment à nos demandes?
Je n'écoute plus parce que ce sont que des annonces. Je ne vote même plus. Ça fait.
Oh non, mais ça, Mickaël, franchement, mais si en plus vous votez plus, c'est pas possible ça.
Je ne crois plus en rien. Mais vraiment, parce que aujourd'hui, on nous assassine. Et je vais vous dire une autre chose, alors, qui n'a pas forcément de rapport, mais c'est un rapport avec vous au gouvernement. Je facture des entreprises publiques. Je suis entre 6 mois et 1 an pour être payé.
Et ça, vous êtes nombreux à le dire, Mickaël, la question des délais de paiement,
vous avez des délais de paiement avec des entreprises publiques ou avec des collectivités publiques? Parce que les collectivités publiques, les collectivités locales, ont fait des efforts considérables pour ramener les délais de paiement dans des délais tout à fait raisonnables. Mickaël. Moi, j'ai été élu local pendant 11 ans.
Je vais vous dire, hein, je prends un exemple, c'est le pire, hein, mais bon. J'ai une facture qui date du 7 août 2025 à un hôpital.
7 août 2025. Ouais. Et qui n'a toujours pas été payé?
Qui n'a pas été payé. Je peux vous envoyer le mail, l'hôpital nous envoie un mail, j'ai relancé il y a un mois, qui me dit, je suis vraiment désolé, on a des problèmes de trésorerie, je vous promets, on fait le maximum.
Il y a un cas
merci pour votre témoignage, Mickaël. Il est très important, effectivement. Comme ça, on n'est pas dans la théorie avec vous. On comprend parfaitement. Il y a une autre question, effectivement, je le disais, qui a été évoquée hier et qui vous concerne au premier chef. Vous qui êtes le ministre de l'Industrie, c'est la question de la Chine. Écoutez ce que Gabriel Attal, qui est le candidat de Renaissance, disait hier.
Il y a une politique chinoise assumée visant à couler notre industrie. On peut avoir tous les débats. Si on n'apporte pas les réponses nécessaires, on n'arrivera pas à résister.
Sébastien Martin.
Sur le sujet de la Chine, qui aujourd'hui, au niveau européen, porte le plus fortement l'enjeu de la préférence européenne, l'enjeu d'avoir des outils de protection beaucoup plus réactifs et beaucoup plus rapides, et l'enjeu du Made in Europe? C'est la France. Dans les débats que nous avons aujourd'hui au niveau européen, c'est la France qui porte le plus cette idée-là. Tout simplement pour deux raisons. Un, on ne doit pas fermer l'Europe. On ne doit pas faire, à mon avis, exactement comme fait Monsieur Trump, qui ferme tous les États-Unis en disant « j'ai mis d'énormes droits de douane sur la Chine, tu parles, ça s'est déporté sur l'Asie du Sud-Est ». Par contre, qu'on puisse entrer en Europe à partir du moment où on respecte des règles du jeu qui sont conformes aux nôtres, là, il n'y a pas de problème.
Mais si les décisions, et vous savez quoi, si les décisions de l'Union européenne ne vont pas dans ce sens, puisque vous dites, nous, on est lucides, ils ne le sont pas toujours.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il faut à ce moment-là désobéir à l'Union européenne parce que ça ne va pas dans le sens de la France?
Excusez-moi,
c'est ce que proposait hier Jean-Luc Mélenchon.
Juste un tout petit peu de cohérence. Peut-être qu'on parlera des petits colis tout à l'heure. On nous a rionné quand on a mis en place la taxe sur les petits colis. Le Rassemblement national, LFI, ils ont voté contre. Après, ils disent, il faut se défendre contre la Chine. OK? Eh ben, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Si la France n'avait pas pris cette initiative, l'Italie l'a prise aussi, de taxe sur les petits colis national, qui ensuite s'est développée au niveau européen. Je pense pas qu'on aurait moins 30 à moins 40%.
Il y a
beaucoup de gens qui font de la politique, mais quand il s'agit d'agir, ils ne font rien.
Les petits colis qui arrivent effectivement en Europe. Emmanuel.
Au-delà des petits colis,
Sur mon domaine industriel, on peut parler des véhicules électriques, pas de problème.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, non, mais attendez, on se dit quand même aujourd'hui, il y a des secteurs sur lesquels le combat est perdu. Est-ce qu'on va encore faire des automobiles en Europe? Je vois pas comment. Donc, sur quel secteur aujourd'hui, la réindustrialisation, on doit se concentrer? Sur quel secteur on a encore des chances aujourd'hui?
Et d'ailleurs, Manu, j'aimerais ajouter quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'IA en France, parce qu'on est très bon en innovation et en recherche, mais le paradoxe, c'est qu'en robotisation, on est globalement nul, hein, 4e au classement européen en robotisation industrielle. Et alors, les robots de service qui sont en train d'exploser en Chine, et j'aimerais vous entendre là-dessus. En Chine, on développe des robots qui, en gros, font les jobs qu'on appelle les jobs en tension en France. Donc, c'est-à-dire nettoyage, service au restaurant, tous les jobs où on a besoin de personnes, et on nous dit les Français veulent plus faire ces travails-là parce qu'ils sont pas assez bien payés. Eh bien, ces jobs-là, en Chine, ils sont en train d'être remplacés par des robots. Quand vous êtes dans un hôtel à Shanghai, c'est un robot qui vous fait le room service. Il faut bien se rendre compte de ça. Aujourd'hui, la France est totalement à la ramasse là-dessus, et la robotisation, c'est la révolution de demain. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, monsieur le ministre?
Mais vous parlez d'innovation technologique au sens large, en fait, dans ce que vous dites.
Non, en innovation, on est bon en recherche, mais en robotisation industrielle.
Oui, mais robotisation industrielle. Oui, oui. On n'est pas mauvais non plus sur l'ordinateur quantique, et on est le seul pays européen à avoir été capable de faire Mistral. Enfin, moi, je veux bien. Les seuls qui font de l'IA aujourd'hui, c'est la Chine et les Américains, et puis il y a un tout petit, soi-disant tout petit pays. Parce que le truc, c'est on est nul, on est un tout petit pays,
on
ne sait rien faire.
Non, j'ai pas dit que on n'est pas très bien classé.
Le seul pays qui est aujourd'hui capable, à 67 millions, 68 millions d'habitants, de faire un truc qui marche en IA, en Europe, ça s'appelle la France. Je veux juste le rappeler. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a quelques années en arrière, on était autour de la table, Framatome dans le nucléaire, parce qu'on parle des secteurs qu'il faut bien savoir préserver, Framatome dans le nucléaire allait fermer en 2016. Areva. Et aujourd'hui, vous allez me dire que Framatome va fermer? Certainement pas. On va dire qu'on sait plus faire des voitures, mais c'est faux. On sait faire des voitures. On est en train d'apprendre à savoir faire les véhicules électriques. Les véhicules électriques en France, les plus vendus, sont des véhicules français. Donc arrêtons
encore
un petit peu à dire qu'on ne sait pas faire les choses, on sait les faire.
Sébastien Martin, Marine Le Pen a annoncé notamment supprimer l'impôt de production. Pourquoi vous ne le faites pas?
Non mais attendez, vous avez vu le plan d'économie de Marine Le Pen?
Je pose une question très précise. Non mais, l'impôt de production.
On a divisé par deux la CVAE. C'était pas un impôt de production? Mais en fait, attendez, l'impôt de production, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les impôts de production. D'ailleurs, il y a des définitions qui sont un peu différentes en fonction des uns ou des autres. Là, dans les impôts de production, il y a la CFE, par exemple, il y a la CVAE, puis il y a des impôts qui sont prélevés directement par les collectivités territoriales. Donc, vous supprimez pas comme ça l'impôt de production d'un coup de baguette magique.
Ça fait 100 milliards.
Vous avez aussi des collectivités territoriales. Mais, moi, je vois son plan d'économie. Excusez-moi, en 2022, c'était 16 milliards basés sur quoi? L'immigration, l'Europe, et puis le train de vie de l'État. Aujourd'hui, c'est 120 milliards basés sur les trois mêmes choses.
Sur les mêmes points.
Multiplié par 10 quasiment, avec exactement les mêmes
Merci
recettes.
Merci Sébastien
sont
Martin d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ministre de l'Industrie, il est 7h55. Merci aussi à Michael pour son témoignage, chef d'entreprise dans le Nord. J'espère, et Michael, j'en prends presque l'engagement, que en nous écoutant chaque matin, en entendant l'expertise, l'analyse, à la fois de l'économiste Emmanuel Le Chypre, de l'historien Arthur Chevalier, et en étant avec nous, eh bien, vous aurez peut-être envie à nouveau de participer à cette vie de la démocratie de 2027 et qu'on arrivera à vous convaincre d'aller voter. C'est aussi, je pense, notre rôle à chacun. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. Il est 7h56. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
7h59 sur RMC. Le bonus, Mathieu, une sortie ce matin.
Et oui, et pas des moindres. Celui qui a terminé de construire sa cabane en forêt et qui a repris le chemin des studios, Vianney publie D'or et d'étain cette nuit.
C'est pas rien nous deux, c'est l'Atlantique, du gris, du bleu.
Vianney qui revendique une approche artisanale, pas d'ordinateur mais un vieux magnétophone à bande magnétique et des instruments. Ce ne sera pas parfait, annonçait-il, mais ce sera parfaitement humain. Écoute.
Mon amour, il ne sommes jamais que d'or et d'étain. Magnifique musique que dicte le temps, pourtant nous deux.
Merci Mathieu. Il est 8h, excellente journée à tous, c'est vendredi et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le bilan des crues au Népal s'alourdit encore, au moins 472 morts. Catastrophe provoquée par l'effondrement d'un glacier. Il y en a des centaines en France et ils sont sous haute surveillance. La déferlante des petits colis, souvent chinois, a été stoppée. Chute drastique de leurs importations en Europe. Moins 30 à 40% depuis l'instauration de cette fameuse taxe qui a dissuadé bien des clients. Et puis du lourd pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le tirage au sort lui place Manchester City, le Barça ou encore la Roma sur la route vers la troisième étoile.
Mais d'abord, un jeu de piste géant qui commence aujourd'hui à Paris.
Hey, on t'ira, mon pays sera temps.
Eh oui, cette question, les fans, trouveront-ils Céline Dion aujourd'hui? La star doit atterrir au Bourget ce matin avant sa série de concerts dès le 12 septembre à la Plénitude Arena. En attendant, elle devrait séjourner au Royal Monceau selon nos confrères du Figaro. C'est en tout cas pour ça que Sylvie a fait le pied de grue devant le palace hier.
On a eu la chance d'être tiré au sort et d'aller la voir au mois de mai prochain. Ah mais on est complètement impatients. Si on pouvait y aller là en septembre-octobre, oui, on irait. C'est vrai qu'autour de nous, on a pas mal d'amis qui l'adorent. Et bien, on a tous hâte, on en parle. Voilà. Et puis on est devant le Royal de Monceau. Peut-être qu'elle va venir ici. On sent aussi que ça bouge, donc on a hâte, quoi. Mais on est ravis, on est fous de joie.
Et les propos de fans enthousiastes recueillis par Delphine Schiltz pour RMC. Il est 8h02 sur RMC après avoir paralysé une partie de l'Île-de-France. Hier, les orages s'abattent ce matin sur la région lyonnaise. Les images et le brouhaha des grêlons sur le pare-brise de cet automobiliste ce matin sur le périphérique lyonnais. 7 départements de l'Est seront aujourd'hui en vigilance orange. Les intempéries qui font à nouveau craindre le pire au Népal. Les crues meurtrières ont créé un lac qui menace désormais de céder. Les opérations de secours ont donc été suspendues ce matin du côté tibétain de la frontière. 2 jours après la catastrophe, le bilan est passé à au moins 472 morts ces dernières heures. Toujours plus de 1400 disparus, dont au moins 4 Français. L'origine de ce drame, c'est l'effondrement d'un immense glacier. Alors un tel scénario est-il possible en France ? Romain Houg, les experts y sont en tout cas extrêmement vigilants.
Oui, parce que le danger est bien réel. Le risque, c'est qu'en fondant, le glacier libère une immense poche d'eau ou qu'un bloc s'en détache et qu'un torrent dévastateur d'eau, de boue, de roche se déverse alors dans la vallée, emportant les villages qui se trouvent sur son passage. C'est ce qui s'est passé justement au Népal, un phénomène de surcroît amplifié par le dérèglement climatique. C'est pourquoi ces glaciers sont surveillés comme le lait sur le feu. Sondes, radars, scanners magnétiques, tout est mise en œuvre pour se prémunir d'une telle catastrophe. Des opérations de pompage sont également fréquemment réalisées comme des exercices grandeur nature. Ce sera le cas l'année prochaine dans la vallée de Chamonix, baptisée Alpex. C'est une manœuvre européenne d'ampleur pilotée par la sécurité civile avec la mobilisation de 1000 secouristes et qui va simuler un effondrement du glacier après un séisme ensevelissant des hameaux entiers et la route du Mont Blanc. Autre exemple, à Saint-Gervais, des câbles sont installés sur le glacier. S'ils rompent, les sirènes se déclenchent et les habitants tente alors 20 minutes pour se mettre à l'abri.
Les explications de Romain Houg pour RMC. On l'a appris ce matin, un soldat de la Légion étrangère française est pris en otage depuis le 6 août en Colombie. José Holger Melo Chari, franco-colombien, était en permission dans le pays. Il a été enlevé dans une région contrôlée par la guérilla. Sébastien Delogu est sorti de garde à vue tard hier soir avec une convocation au tribunal pour le 13 novembre prochain. 10 heures d'audition durant lesquelles le député insoumis a été confronté à 3 policiers. Eux l'accusent d'outrage lors d'une intervention dans le hall d'immeuble de l'élu. Lui a porté plainte pour violence. 3 heures de débat hier entre 7 candidats à la présidentielle. Conviés aux universités d'été du MEDEF, le syndicat des patrons. Un absent, le Parti Socialiste, et pour cause le PS, n'a pas encore son candidat. La primaire d'octobre, c'est le sujet sur toutes les lèvres à Blois pour sa rentrée politique aujourd'hui. Et dans ses allées, il y en a un qui n'a pas du tout l'intention de s'embarrasser avec ce scrutin, mais qui n'a pas fait une croix pour autant sur l'Élysée, c'est François Hollande, Cyprien Pézeril.
Oui, rendez-vous avec les militants PS cet après-midi, débat demain avec Édouard Philippe et un nouveau livre la semaine prochaine. L'ancien président qui aimerait bien le redevenir se prépare, il planche sur un programme, la retraite à 63 ans par exemple. Selon nos informations, ses équipes sont aussi en quête d'un local de campagne. Pourtant, il n'est pour l'heure pas officiellement candidat, il ne participera pas à la primaire socialiste. Condamné selon lui à l'échec, la faiblesse des autres met Hollande dans le jeu, se perçoit un de ses amis. Dans le petit milieu politique, personne ne sous-estime son habileté. Il dira en décembre s'il est candidat, mais François Hollande ne veut pas l'être à tout prix. Il est lucide, prévient un de ses soutiens. S'il est à 6 ou 7% dans les sondages, il ne se présentera pas.
Faut-il une primaire de la droite au centre? C'est une question qui se pose aussi avec cette tribune signée par 300 élus de la droite et du centre justement. On posera la question à 8h30, le face-à-face. L'invité d'Apolline de Malherbe, c'est David Lisnard, le maire de Cannes et candidat donc à la présidentielle. L'Europe n'a pas gagné la guerre, mais a remporté une bataille contre les petits colis, souvent venus de Chine. Son arme, vous le savez, c'était cette taxe de 3 euros par catégorie d'articles instaurée en juillet. Depuis, les importations se sont écroulées, moins 30 à 40% dans l'Union européenne. Le ministère de l'économie se frotte les mains. Mais qu'en est-il des consommateurs ? Victor Girard leur a posé la question à ses clients parisiens.
Au milieu de ces montagnes de colis, Alain, le patron du point relais, cherche des paquets chinois.
Ça, c'est encore de particulier à particulier.
Ils ont disparu des étagères.
On reconnaît par rapport aux paquets, les fournisseurs. Et Temu, ça fait au moins un mois que j'en vois pas. Ça confirme ces 30 à 40% de l'Union européenne.
Des importations qui baissent depuis le début de l'été, conséquence de cette taxe destinée à freiner l'arrivée de ces milliards de colis chinois.
C'était l'effet voulu, ça marche.
Reconnaissent Brinca et Leïla à la sortie des boutiques.
3 euros par catégorie d'article, ouais, ça revient cher. J'ai pas recommandé depuis.
La taxe, il coûte plus cher que l'article. C'est pas intéressant. Ça enlève en fait le bénéfice pour lequel on préférait utiliser ces applications-là à la base.
Des achats devenus bien moins fréquents sur ces sites, c'est également ce qu'a constaté l'application Joco dans une étude. Les ventes en volume ont baissé depuis l'instauration de la taxe.
Temu affiche moins 50%, AliExpress moins 37%.
Mais Shein résiste un peu mieux, explique Elena Ernwein, responsable marketing.
On est plutôt aux alentours des moins 15%. Son entrepôt en Pologne lui permet sans doute de contourner cette nouvelle taxe.
Taxe que les plateformes tentent d'absorber en augmentant leur panier moyen selon l'étude.
Victor Girard pour RMC. Et puis le foot, le tirage au sort de la Ligue des Champions n'a pas été tendre avec le Paris Saint-Germain. Le Barça, Manchester City et la Roma au programme de la première phase. Alors il va falloir vite se remettre à l'endroit parce que les Parisiens en méforme défient Lille ce soir en Ligue 1 sans Ousmane Dembélé, Arthur Perrault.
Oui, le Ballon d'Or 2025 reste au repos jusqu'à lundi. Une décision prise par la direction sportive parisienne et l'entraîneur Luis Enrique, convaincu des bienfaits de son choix.
Les joueurs qui sont rentrés avec moins de jours de repos, je suis toujours ouvert à les donner des temps de repos et déconnecter. C'est la même chose pour Ousmane. Il a fait ce très bel effort pour être avec l'équipe. Et après, c'est le moment d'avoir cette petite temps de se déconnecter.
Le champion d'Europe en titre n'a remporté aucun de ses deux derniers matchs. Pour réagir, le coach du PSG pourrait aligner la dernière recrue Ferran Torres, auteur d'un doublé dimanche dernier à Rennes.
Tu ne gagnes rien seulement avec 11 joueurs. Et je suis très ouvert. Chaque fois que je parle avec les joueurs, si tu montres que tu es mieux que les joueurs qui normalement démarrent les matchs, pour moi, il n'y a pas de problème.
Il faut remonter à novembre 2024 pour retrouver 3 matchs consécutifs sans victoire du PSG.
Lille-Paris Saint-Germain, ce sera à suivre ce soir 20h45 sur RMC. Les Lillois, tiens, qui eux ont hérité entre autres du Bayern Munich et d'Arsenal en Ligue des Champions. Ce sera Manchester City et Liverpool entre autres pour Lens.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 8h09 sur RMC. Où sont les hommes? Où sont les hommes qui ont grandi avec les chansons de Patrick Bruel? Où sont ceux qui ont dansé sur Casser la voix à un mariage, un anniversaire, à une boum de collège? Où sont les hommes de l'industrie musicale, ceux qui le connaissent, ceux qui ont travaillé avec lui, qui le savait peut-être? Bonjour David Pellicot. C'est
Bonjour.
Vous qui avez écrit ces mots, David Pellicot. Vous êtes bien sûr le fils de Gisèle Pellicot, devenue une figure féministe aussi après le procès des viols de Mazan qu'elle a subi. Et vous lancez cet appel. Où sont les hommes? On ne les entend pas sur Patrick Bruel. Vous allez nous le dire dans un instant, lancer cet appel en quelque sorte. Je vous écoute, vous aussi au 32-16, venez réagir. Est-ce que vous estimez qu'il faut, juste avant que ne débute sa nouvelle tournée de Patrick Bruel, une tournée qui devrait commencer le 2 octobre, est-ce qu'il faut que les hommes se lèvent aussi pour dire stop? Vous interpellez les hommes, Gisèle Pellicot, n'hésitez pas à répondre, évidemment David Pellicot, n'hésitez pas à lui répondre, le 32-16 bien sûr, et puis je vous attends aussi, Arthur Chevalier et Emmanuel Le Chypre bien sûr, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et c'est un appel ce matin sur RMC que vous lancez, David Pellicot. Bonjour.
Bonjour Apolline, merci pour votre invitation.
Vous êtes le fils de Gisèle Pellicot, bien sûr. Où sont les hommes dans l'affaire Patrick Bruel? Voilà ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. 32 femmes ont porté plainte. Où sont les hommes?
Je me pose encore la question. En tout cas, merci encore une fois pour votre invitation. En préambule, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait ce poste dans la colère. Et je voudrais surtout rendre hommage et donner une visibilité au courage de ces victimes, de ces plaignantes. Rendre hommage au courage parce qu'elles ont osé parler, porter plainte, dénoncer. tout en sachant ce qui va les attendre. Elles vont certainement avoir un dur combat à mener face à une montagne qui est Monsieur Patrick Bruel. Donc ça, il faut le saluer. Moi, je suis avec elles. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau des violences faites aux femmes. Et la question que je me pose sans cesse, c'est effectivement où est-ce que sont les hommes dans la société française face à ce sujet qui est tellement important qu'il faut traiter sous toutes les coutures, que ce soit pour les féminicides, les infanticides et toutes les violences sexuelles et sexistes. Où sont les hommes? On sait que chaque plate a un prix. Le silence collectif des hommes également. Il est temps de sortir de ce confort, de se manifester et être auprès des femmes.
Mais pardonnez ma question.
Emmanuel Lechip.
Patrick Bruel intéresse assez peu les hommes, en fait. C'est un chanteur à femmes, entre guillemets. C'est un public féminin. Je sais pas. Est-ce que les hommes se sentent concernés par la personnalité de Patrick Bruel? Alors, c'est ça ma question.
Je vais vous répondre. Moi, je n'ai pas de honte à dire que j'ai beaucoup apprécié le Patrick Bruel dans sa carrière dans les années 80-90. Je préférais d'ailleurs plus l'acteur que le chanteur. Vous avez peut-être raison. En tout cas, je ne peux plus, moi, dissocier l'œuvre de l'artiste. J'ose faire une comparaison, peut-être elle est un petit peu lourde, mais celle de Bertrand Cantat, qui, au vu de peu de peine qu'il a eue, est ressorti au bout, je crois, de 7-8 ans et se produit encore sur scène. Moi, je fais partie de ceux...
Pour vous qu'un chanteur... Alors, il faut quand même préciser que Patrick Bruel n'a pas été jugé.
Non, mais attendez.
Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé.
Il est présumé innocent. Mais attendez, moi, j'ai un avis sur la présomption d'innocence. Je ne suis pas avocat ni magistrat. Mais je dis que la présomption d'innocence est un pilier fondamental dans un état de droit comme le nôtre. Il faut la défendre. En revanche, ce que je dis, c'est que si on veut la défendre avec honnêteté, il faut dire la vérité. Et dans un cas comme ça, la vérité, c'est que la notoriété peut être une innocence d'emblée. Voilà. Et je trouve que dans...
Vous n'estimez pas qu'en l'occurrence, certaines de ses tournées, une partie de sa tournée, la première partie avait été annulée. Là, en effet, il y a une tournée dans un certain nombre de villes, une trentaine de villes qui est encore organisée. Avec une question, hier, j'interrogeais le maire d'Amiens qui disait « Moi, je voudrais l'annuler, je ne peux pas techniquement. » C'est un homme, d'ailleurs. À l'inverse, la maire du Zénith de Strasbourg, elle dit « Bah moi, je considère que c'est pas à moi d'annuler une tournée et que Patrick Bruel... S'il est encore considéré comme innocent, doit pouvoir se produire sur scène. Et une question, puisque vous dites les hommes, les femmes, ce sont des femmes qui majoritairement ont acheté des billets pour aller écouter Patrick Bruel. Qu'est-ce que vous leur dites à elles?
Dans leur âme et conscience, elles sont avec leur propre responsabilité. Moi, je comprends la colère des fans. Sur le sujet de la tournée, faut-elle la maintenir ou pas? Moi, je pense que, au vu de l'ampleur que cela prend dans notre pays, c'est à Patrick Bruel de prendre la décision. Et je pense qu'au vu des événements, il ne peut pas faire semblant du moins comme si de rien n'était. C'est-à-dire que ça entretient quand même une certaine impunité et ça alimente ce que
on
j'appelle
part
moi.
Un poste au tout début, effectivement, Patrick Bruel ne s'est plus exprimé. Ça alimente?
L'omerta.
Oui, c'est vrai.
Arthur Chevalier.
La question que je me pose à propos de cette histoire, c'est on a l'impression quand même que le temps de l'émotion, qui est évidemment immédiate et qui n'en finit plus depuis le début de cette affaire, n'arrive pas à suivre le temps de la justice. Et quand vous dites on n'entend rien sur ce sujet, moi je trouve plutôt qu'on entend beaucoup, effectivement.
Et de qui?
Je trouve que par exemple plusieurs maires qui sont des hommes ont exprimé leur réprobation à l'idée que Patrick Bruel vienne faire des concerts à Chartres, à Amiens.
Est-ce que ce n'est pas par pur électoralisme?
David Pellico.
Je ne dis pas le contraire, mais à la limite, si ça va dans un sens vertueux, pourquoi pas. Mais de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un moment de société où maintenant, en fait, la justice doit aller plus vite face au temps de l'émotion, parce que sinon, ça crée un sentiment d'injustice, justement.
David Pellico.
Moi, je pense quand même que, de toute façon, il y aura un jugement. On a aujourd'hui, je crois, 32 plaintes.
32 plaintes.
C'est pas rien, 32 plaintes. Je trouve quand même que dans ce dossier, je ne vais pas, parce que, encore une fois, je ne suis pas magistrat, ni avocat, ni juge, mais on peut quand même avoir sa propre idée sur le sujet. Je trouve quand même qu'à chaque fois qu'on a une affaire de violence sexuelle et qu'une personnalité est mise en cause, C'est extrêmement difficile de pouvoir se défendre au niveau des, par rapport aux victimes, parce que ou la parole est malmenée, ou parce qu'elle se confronte à une notoriété et qui a été entretenue pendant des années.
Pourquoi cette affaire, elle résonne à ce point pour vous, David Pellicot?
Et parce que moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'en tant qu'homme, on peut pas faire bouger les lignes? Et pourquoi, effectivement, dans ce pays, on a plus de femmes qui se manifestent? Quand j'ai fait ce poste, j'ai eu, je crois, 52 000 vues. C'est pas pour dire que j'ai eu 52 000 vues, mais j'ai eu en majorité des femmes qui remercient et qui se demandent et qui me posent la question, pourquoi, selon vous, les hommes ne sont pas là? Et ça nous fait du bien que des hommes comme vous prennent la parole, prennent position sur ce sujet-là, qui, moi, est forcément, par la force des choses, me bouleverse.
Votre appel ce matin sur RMC. Merci David Pellicot de l'avoir porté ce matin.
Pauline, si vous me le permettez, je voudrais surtout rassembler et demander aux hommes qu'ils n'oublient pas que le 7 septembre, il y a la manifestation pour lutter contre les violences faites aux femmes et les enfants. Je leur demande de venir à nos côtés et aux côtés des femmes, c'est très important.
David Pellicot sur RMC, il est 8h20 et c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à Pauline, les amis. On va reparler politique parce que vous n'avez pas pu, Apolline, échapper au tremblement de terre politique de la semaine.
Un tremblement de terre.
Oui, pourquoi? Parce que
Je ne sais même pas de quoi vous parlez.
Tremblement de terre, oui. Xavier Bertrand.
Mais bien sûr, c'est à ça que je pensais immédiatement. C'est ce tremblement de terre.
Encore un candidat, c'est l'invasion. Là, faut éteindre la lumière, ça les attire. C'est complet, les gars. C'est fini. Xavier Bertrand, on dirait un gars devant une boîte de nuit.
Bonjour monsieur, c'est ici la présidentielle? Je voudrais rentrer.
Non, désolé, c'est complet, il y a trop de candidats.
Oh allez, j'ai des électeurs qui m'attendent à l'intérieur.
Ça m'étonnerait. Ça va être un drame. Moi je serais Xavier Bertrand, je parierais plein de fric sur un score en dessous des 5% pour moi-même. Parce que ce sera son seul moyen de se rembourser cette campagne.
Bon.
Tu sais, c'est comme les supporters du FC Nantes, quoi. Si vous voulez gagner, il faut miser contre vous, les gars. C'est ça le truc.
La députée insoumise Clémence Guettet a publié ce livre pour une politique de l'amitié et elle propose cette reconnaissance juridique du statut d'ami.
Je suis désolé.
Arthur, on a décidé de faire votre éducation.
Alors, l'idée de ce truc, c'est qu'on ait des jours de congé quand notre meilleur ami meurt, par exemple. Mais alors ça veut dire qu'on doit signaler en amont à l'État qui c'est notre meilleur ami.
Ah oui.
Et donc là, tu dois annoncer à 10 potes qui pensaient être premiers qu'en fait, ils sont 8e. Et après, du coup, c'est plus tes amis du tout. Alors évidemment, il y a des gens qui ont un meilleur ami facilement identifiable. Bon, Apo, par exemple, Jean-Jacques Bourdin.
Oui,
ça,
évidemment.
C'est facile. Mais
évidemment.
On n'est pas tous dans le même cas. Alors, LFI propose aussi qu'on puisse hériter de ses amis. Ouais. Je vais aller me faire tellement de potes en EHPAD.
Mais je vous connais, jeune homme. Enfin, Marceline, ça fait 40 ans. Tu me fais tellement de peine.
Ceci dit, jusque-là, pour avoir un ami, en fait, t'avais juste à te faire un ami. Ouais. Mais si maintenant, pour avoir un ami, il faut remplir un formulaire CERFA sur impots.gouv.fr/ami/formulaire.amitié-2027 et le déposer en mairie avec deux pièces d'identité et une attestation sur l'honneur qu'on s'est déjà tenu les cheveux pendant qu'on vomissait.
Oh non.
Ça, c'est un critère. Mais surtout avec vos cheveux, Mathieu. Non, mais il doit y avoir plus simple pour se faire des amis.
Si t'as pas d'amis, prends un curly.
Voilà, par exemple. Très bonne méthode. Et alors, il y a ce truc horrible. T'es tranquillou à la machine à café. Et là, t'as le chelou de la boîte. Vous savez, celui qui mange tout seul et qui débarque et qui te fait
« Je voulais te dire... J'ai dit à la direction que pour moi, dans la boîte, t'es mon meilleur ami. »
Et toi, tu peux pas lui dire « Ah, écoute... Parce que tu sais qu'il a pas de femme, pas d'enfant, mais il est proprio. Et t'auras pas une grosse retraite. Donc t'es coincé. T'es coincé.
Ouais,
simplement, faut le sortir au karaoké. Tous les week-ends, maintenant.
Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de 3 parcs d'attractions en région parisienne, financés par l'Arabie Saoudite, dont l'un sera consacré à l'univers de Dragon Ball.
Il saigne du nez. C'est la totale Club Dorothée. Ben voilà, Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salmane, ils se parlent pas des droits de l'homme, ils se parlent de Dragon Ball. À l'Elysée, Macron, il était à fond. Je suis Son Goku. Hey Brigitte, t'es un guerrier super saiyan.
C'est quoi ça?
C'est Son Goku quand il s'énerve. Allez, pense aux féministes, ça va t'aider à te transformer. Et Brigitte, elle fait « Sale con !» Les cheveux sur la tête. Et alors, dans le rôle de Tortue Géniale, François Bayrou. Ah ouais. Alors, plus pour le côté tortue que le côté génial. Ah. Bonjour, San Goku. Bienvenue. Nous allons apprendre ensemble et sans tarder. Accouche! Les arts martiaux où la rapidité et la vélocité. Ah, ta gueule. Le parc sera construit près de Cergy-Pontoise. Après, c'est cool. Enfin, parce que je veux dire, là-bas, le seul manège à sensation, c'est quand même le Transilien à 1h du mat. C'est un peu naze. Et Emmanuel Macron a annoncé deux autres parcs, mais on n'a pas le thème des deux autres. On a d'ici à ce qu'ils nous sortent Macronland. Macronland, ce serait formidable. Macronland, on sera accueillis par des intermittents du spectacle au SMIC, déguisés en banquiers en pluche.
Salut les amis! Bienvenue à Macronland pour s'amuser de façon disruptive et post-rationaliser la user experience divertissement. Non, oh, on est foufou. Et oui, parce qu'à Macronland, vous pouvez faire plein de trucs. Faites-vous peur dans la tour du déficit et vivez une chute de 3300 milliards de centimètres. La croisière enchantée des boomers. Vous faites du bateau sur une rivière et c'est vos enfants qui payent le billet.
Eh ben, j'espère bien parce que nous, on a travaillé.
Le restaurant de la traversée de la rue. Vous rentrez dedans chômeur, vous le traversez et hop, vous êtes serveur. Et dans tous nos établissements, cordon bleu à volonté parce que c'est tellement bon. Bienvenue à Macronland. C'est une belle activité, oui.
Il est 8h26, c'était Arnaud Demanche. Dans un instant, le face-à-face sur AMC BFM TV. Mon invité est candidat à l'élection présidentielle et maire de Cannes, c'est David Lisnard. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes maire de Cannes, vous êtes à la tête de votre propre mouvement politique, un mouvement libéral, résolument libéral, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Honnêtement, vous devriez être le candidat des patrons. Et pourtant, hier, ils vous ont pas mis sur la scène. Est-ce que vous êtes pas trop nombreux? Pardon de vous poser la question aussi franchement, mais est-ce que vous êtes pas trop nombreux?
Bah, c'est pour ça que je vous propose une sélection, hein, pour éliminer un certain nombre d'entre nous. Vous dites candidat des patrons. Moi, j'ai été petit patron, hein, j'ai été commerçant, j'ai été aussi salarié. Je suis aussi le candidat de ceux qui veulent s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire de montrer que le système tel qu'il est aujourd'hui ne peut créer que du déterminisme social, de la précarité, etc. Le débat d'hier, c'était entre ceux qui ont planté le pays et ceux qui le planteront encore plus. Moi, j'arrive avec mon expérience du terrain, à la fois de maire, de père de famille, de personne qui vient aussi du privé.
Et on le sent bien,
j'ai envie de faire entendre cela parce que je crois qu'on peut vraiment redresser le pays à condition de tenir une direction, de redonner le pouvoir aux Français, de travailler avec pragmatisme, bref, de retrouver une certaine constance.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, vous parlez souvent aussi de questions régaliennes, de sécurité, mais sur l'économie, clairement, ce début d'année présidentielle, il commence avec des problématiques très clivantes, avec la
comme
question
prévu.
De la dette, de l'héritage, des retraites. Sur l'héritage, voilà une question fondamentalement clivante. Oui. On a eu cette semaine, du côté de la gauche, quelqu'un comme Mathilde Panot à mon micro, qui disait à partir de 12 millions, on prend tout. On a la CFDT qui dit il faut taxer dès le premier euro. Et on a de l'autre côté, quelqu'un comme Marine Le Pen qui dit que c'est un impôt immoral, l'impôt sur les successions, et Bruno Retailleau qui dit je les baisserai. Vous ferez quoi?
Je vais pas aller tout de suite sur la morale, mais on pourra aller sur les principes. Si la France manquait d'impôts, je trouve que ce débat serait légitime. On est le pays qui a le plus d'impôts et de charges. C'est incontestable, hein. 45% de prélèvements obligatoires. Premier élément. Deuxième élément, on est le pays qui taxe le plus l'héritage aujourd'hui. C'est incontestable aussi. Le taux de 45% est le plus élevé, ou un des plus élevés du monde, un des trois plus élevés. Donc, je veux bien, mais tout ça, c'est du détournement d'opinion. Parce que ça évite la seule question qui vaille aujourd'hui. Comment est-il possible que dans le pays où nous payons le plus d'impôts et de charges, on ait une dégradation des services publics et des comptes publics? Comment se fait-il qu'alors qu'on paie plus d'impôts qu'ailleurs, on ait de plus en plus de dettes? Et comment se fait-il que dans le pays qui a le record du monde de la dépense publique, on attende de plus en plus aux urgences? Moi, je le vois dans ma commune et dans plein de communes, on a quasiment plus...
Les impôts en soi...
Mais il faut de l'impôt, évidemment. Il faut du bien commun et il faut du service public. C'est une évidence en subsidiarité, comme on dirait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelle est l'efficacité de l'impôt? Moi, à quoi sert notre argent? Comment se fait-il que dans plein de villes aujourd'hui, dont la mienne, après 1h du matin, il n'y ait quasiment plus, voire plus de police nationale? Comment se fait-il qu'on ait des multirécidivistes dans la rue? Comment se fait-il qu'il manque 20 000 places de prison depuis 15 ans? Donc, il ne parle pas de ça, il ne parle absolument pas de l'organisation des pouvoirs publics. On a de plus en plus d'agents de la fonction publique, très souvent d'ailleurs pas managés, pas commandés, pas bien traités, et on a de moins en moins de services publics sur le terrain. C'est ça la question, et c'est cette question-là, moi, que j'essaie de répondre, parce que, en tant que Français, c'est ce qui me préoccupe.
Sur la question de l'héritage, je vous repose la question, ouais. Est-ce qu'il est compréhensible, acceptable, de taxer dès le premier euro, ou alors, à l'inverse, de se dire, bah, il y a un seuil, et en dessous,
moi, je suis, en vient au principe, je pense qu'il faut respecter la propriété privée et notamment la propriété du fruit de son travail. Pourquoi Madame Panot dit il faut on prend tout, mais c'est qui ce on? Pourquoi l'État gérerait mieux l'argent que ceux qui l'ont gagné? Moi, je suis même pour la liberté d'attribution de l'héritage à qui on veut, de faciliter, de baisser toutes les fiscalités pour le transmettre aux jeunes du vivant. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros par tranche, par 15 ans, par enfant, mais c'est totalement insuffisant. Tous les pays qui ont libéré cela ont recréé de la mobilité du capital au profit de la jeunesse.
Et je le répète. Dans les détails, ça veut dire quoi ça, David Lisnard? Quand vous dites deux choses, c'est-à-dire un, je veux favoriser la transmission, ça veut dire que il faudrait pouvoir transmettre plus et moins taxé, plus régulièrement, oui, tout au long de sa vie, à ses enfants, ses petits-enfants.
Oui, notamment l'indirect, mais aussi donner une plus grande liberté d'attribution pour des gens qui ont de l'argent, pour des causes, la cause animale, attribuer pourquoi pas un fonds de capitalisation, hein, que vous remarquerez que je propose depuis des années pour la retraite, et maintenant j'ai vu que d'autres
les mêmes
qui les disqualifiaient.
Avez dit une autre chose, oui. David Lisnard, vous avez dit je suis pour aussi faciliter le fait de transmettre, y compris à d'autres, oui, et à d'autres. Qui on veut. Vous avez peut-être vu que Clémence Guettet, députée LFI, est favorable à davantage de droits pour l'amitié et notamment la question de la transmission du patrimoine.
Non mais moi je comprends pas ces gens-là, si vous voulez.
Mais vous dites
c'est
la même chose,
c'est pas la politique. Oui, mais c'est pas l'amitié. L'amitié c'est subjectif, c'est intime. Je comprends que quand on est ultra interventionniste et d'extrême gauche, ultra communiste, on veut même réguler l'amitié, on veut même faire un régime fiscal pour l'amitié. Mais moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est qu'on laisse les gens tranquilles, qu'on les laisse faire leur vie, quoi. C'est aussi simple que cela.
Sur ce point,
on va pas faire un régime fiscal pour l'amitié.
Et en plus,
elle ne dit pas. Elle ne dit pas que cela. Elle rattache cela à, évidemment, le dénigrement de la famille. Dans le même propos que j'ai entendu a posteriori, elle estime que la famille traditionnelle, on va dire, qui peut être recomposée ou pas d'ailleurs, est une espèce de scorie d'extrême droite. Donc vous voyez, ces gens-là sont des idéologues, sont des extrémistes et sont très dangereux à mon sens.
Donc favoriser, malgré tout, effectivement, la transmission.
Mais la propriété, parce que vous savez, l'impôt, moi je suis pas concerné à titre personnel par l'héritage, donc j'en parle très librement. Mais l'héritage, il a déjà payé l'impôt, plein de fois. C'est un impôt sur la mort, l'impôt sur l'héritage. C'est quand même un argent qui a été déjà le plus taxé au monde. Nous avons le record du monde des prélèvements obligatoires, des impôts et des charges. Alors, tous ces gens-là sont des génies pour inventer des nouveaux impôts, ça je leur fais confiance. Ils sont super astucieux pour ça. Mais aujourd'hui, on a trop d'impôts. Si on veut relancer l'activité économique, la prospérité, si on veut que les Français gagnent plus d'argent, il faut aujourd'hui moins pénaliser la création de valeur et la transmission du capital et de la valeur.
David Lisnard, tout est lié au fond, la question de la transmission, la question de la vie, oui. La retraite, l'âge. Oui. Vous l'avez peut-être entendu, vous venez de parler de la capitalisation, on va y venir, mais simplement sur l'âge pivot, l'âge de la retraite, Bruno Retailleau hier dit, il faut indexer potentiellement ou faire évoluer l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est une proposition qu'on fait depuis très longtemps, qui a été suivie dans beaucoup de pays. C'est un principe de réalité. Mais moi, je vais bien plus loin. Je pense qu'il faut cesser de vouloir entretenir un système qui est mort. L'État-providence ne peut plus fonctionner tel qu'il a été conçu en 1945 parce qu'il reposait sur trois piliers qui n'existent plus. Le premier pilier, le plus important, c'était la démographie. On faisait des enfants et on faisait reporter. C'était une base de pyramide qui cotisait pour les autres. Aujourd'hui, c'est une pyramide de Ponzi, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cotisants. On va fermer 4000 écoles, pas classes, en France dans les 5 prochaines années. Moi, je suis maire, je vois ça partout, parce qu'il n'y a plus de gamins. Mmh. Voilà. Et c'est une réalité. On va ouvrir 2000 EHPAD et on va fermer 4000 écoles. La révolution démographique, elle change tout. Elle change le rapport à la santé, elle change le rapport au bénévolat, elle change tout. Le deuxième pilier, c'était une immigration maîtrisée, moins de 100 000, et du travail. L'année dernière, seuls 13% des titres de séjour ont été pour le travail. Donc c'est une immigration maintenant massive, non maîtrisée de peuplement, qui coûte cher aux finances publiques. Troisième élément, c'était des gains de productivité énormes. On va en retrouver dans quelques années, je travaille beaucoup actuellement sur la robotique, l'IA et l'évolution du rapport au travail. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on parle de ça hier dans les débats, j'ai essayé d'en parler dans mon débat avec Monsieur Roussel. Le vrai débat de la REF hier, c'était entre Monsieur Roussel communiste et moi. Il y avait deux versions, et c'est celui d'ailleurs, je trouve qu'une grande chaîne telle que la vôtre a dû s'en emparer, laisser le débat pénible aux autres.
Qui aurait pas dû être privatisé ce débat Vous avez bien raison, et moi j'ai pas dit ça, l'an dernier, j'étais moi-même sur cette scène, et c'est moi qui avais animé le grand débat de la REF, et nous avions tout à fait laissé les autres chaînes pouvoir le partager. France Info avait d'ailleurs diffusé ce débat.
Je pensais pas toucher une corde aussi sensible.
Oui, mais je le fais parce que je trouve que c'est très important la démocratie. David Lisnard, vous disiez, les robots, en effet, vous l'avez vu, notamment en Chine, ils se développent. Est-ce que, au fond, il faut accepter que face à cette réduction de la démographie, certains disent, ça justifie davantage d'immigration. Vous dites non, ça ne doit pas justifier davantage d'immigration. On doit transformer le travail.
Non, oui, absolument, parce que la population française, y compris moi, j'ai beaucoup d'immigrés récents dans ma commune. Hein, c'est une ville qui a un taux de pauvreté élevé, beaucoup d'immigration maghrébine, capverdienne, etc. Veulent de l'ordre et me disent qu'aujourd'hui, eux-mêmes, les premiers sont les premiers à me dire qu'il faut fermer le robinet migratoire et qu'il y a un enjeu, c'est de préserver un mode de vie, l'égalité homme-femme. Vous voyez cette extrême gauche qui voit du patriarcat dans une côte de bœuf sur un barbecue, mais qui ne voit pas de patriarcat sur la burqa. Hein. Ils sont quand même un peu désingués, si vous voulez. Oui, je le pense. Ouais. Et ce problème, c'est qu'ils sont en train cette idéologie indigéniste devient racialiste, qui devient raciste, qui est souvent antisémite, est en train de contaminer des écoles, des universités, parfois des médias, parfois des grandes écoles. Donc il y a un problème civilisationnel aussi qu'il faut regarder en face. Et la robotique, je vous annonce, je fais du teasing, comme on dit, mais je vais sortir un ouvrage sur l'IA et la robotique, un petit ouvrage et sur l'encyclique du pape dans quelques semaines.
Il y a un lien,
parce que en fait, d'abord c'est accrocheur pour le vendre, mais
je me disais, mais attendez, la robotique, je veux dire, simplement,
j'ai visité une entreprise à Paris qui s'appelle Vandercraft, qui est fantastique, une des meilleures au monde pour les exosquelettes et les robots, qui vient de faire un accord stratégique avec Renault, et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là, et en même temps j'avais lu l'encyclique qui pose des vraies questions. Après, je suis pas d'accord surtout dans l'encyclique, mais j'aurais aimé que les hauts commissariats aux grands machins qui servent à rien en France, aux commissariats aux pleins, aux autorités, machin, aient la même réflexion de prospective. Ce que je veux dire, c'est que on va avoir dans 30 ans, d'hypothèses raisonnables, 50 millions de robots en France, 20 millions dans l'industrie et les services, 20 millions dans les ménages, ça va être un marché colossal, et 10 millions pour aider les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et tout. Donc tout cela, il faut voir quelle sera la fiscalité là-dessus, comment on répartit la productivité, la valeur ajoutée et la taxation de la valeur ajoutée par rapport à ces nouveaux outils. C'est passionnant et c'est ce futur-là qu'il faut qu'on construise.
David Lisnard,
et on doit en parler pendant la présidentielle.
La dette, voilà aussi un des alors à la fois évidemment un des grands débats parce que clivant, là aussi faut-il brûler la dette, faut-il geler la dette, une partie en tout cas, mais bien au-delà de ça, comment faire face? Aujourd'hui même, l'agence Fitch va devoir rendre sa notation de la France. Elle est redoutée, la France qui est non seulement très endettée mais qui paye cette dette de plus en plus cher que l'Espagne ou l'Italie. L'Italie, c'est c'est la droite, l'Espagne, c'est la gauche. Ils ont réussi, nous, on n'y arriverait pas.
Aussi, on va y arriver, évidemment. On n'y arrivera pas avec ceux qui nous ont amenés dans le mur. Enfin, c'était extraordinaire. Dans le débat d'hier, vous aviez ceux qui nous expliquent comment ils vont régler les problèmes, alors que ça fait 20 ans qu'ils les créent et qui ont créé la dette et qui nous expliquent tout de façon très docte. Et puis vous avez les autres qui ont des propositions encore pires, ultra dépensières, démagogiques. Voilà, il faut faire comme on fait dans n'importe quelle entité, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle association. Il faut regarder à budget zéro, regarder les dépenses qui ne servent à rien. Si on a 950 milliards de dépenses sociales en France, on n'a jamais autant eu de SDF dans
nos
rues.
Mais il faut baisser les dépenses sociales ou est-ce qu'il faut changer le modèle ?
Il faut les deux. Les deux, évidemment. Parce que le problème, c'est que ce modèle de dépenses sociales non maîtrisées, avec plus de 200 aides, il ne permet pas d'aider les plus précaires, que nous on traite dans les centres communaux d'action sociale, hein, et qu'on aide, il y a une réalité humaine. Et parallèlement, il favorise l'importation de la pauvreté et la culture de l'oisiveté. Donc il faut en finir totalement avec ce modèle qui n'est plus finançable. Ce qui arrive sur la dette, enfin c'était prévu, enfin vous m'aviez interviewé il y a 3 ans, et après la dissolution, les mêmes qui nous font des leçons d'austérité sont ceux qui viennent de voter sous la pression du Parti Socialiste l'abandon de la réforme des retraites. Les mêmes qui votent des surfiscalité, ce qu'ils ne comprennent pas. On est tellement en apnée budgétaire qu'on ajoute des impôts qui, eux, tuent l'activité économique et qui réduisent les flux qui reviennent aux services
publics.
David Isnard,
voilà, c'est aussi vous allez tenir combien de temps ?
Ah ben moi, je suis tenir. Écoutez, je sais pas si je ferai un ou deux mandats de président de la République, mais
non, vous avez bien compris évidemment, vous pouvez ironiser, voilà. Mais vous êtes très nombreux.
La question
on est
autres.
En train de se retrouver dans une sorte de primaire sauvage où
c'est pour ça que je prévois
les uns et les autres espèrent
une
peut-être
domestique.
Une sorte de sortie comme dans les courses automobiles où il y en a un qui va à un moment ou à un autre prendre la tête et que les autres vont dire allez ok je lâche l'affaire.
Écoutez-moi, entre 50 nuances d'étatisme, je propose autre chose. Je propose que la société civile, que le pays se reprenne en main. Je crois que je le travaille. Après, on est d'accord ou pas avec moi. Mais c'est élaboré, c'est le fruit de mon travail. J'irai au bout et je propose une compétition à droite avant.
Alors,
c'est
à ceux qui la refusent.
C'est à ceux qui la refusent de se justifier. N'inversons pas la charge de la
preuve. Ceux qui la refusent, c'est qui ? C'est Édouard Philippe ?
Mais oui, apparemment. Apparemment. Mais quand Gabriel Attal dit je ne suis pas hostile. Alors,
Gabriel Attal, ici même, à mon micro hier matin, disait mais moi, cette primaire, je suis OK.
Qu'il le fasse, Bruno Retailleau aussi, allez, on y va, on se réunit.
Et vous y allez sans Édouard Philippe, tant pis pour lui.
Mais je pense que ceux qui ne viendraient pas auraient besoin de se justifier de pouvoir faire gagner Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen.
Ce matin, vous nous dites, David Isnard, allons-y, montons là tout seul.
Bah oui.
On y va avec Gabriel Attal, avec Bruno Retailleau, est-ce que ça va jusqu'à Éric Zemmour, Rappel-Glucksmann?
Je vais vous répondre.
entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Moi, si vous voulez, j'irai pas gouverner avec des gens en qui je ne crois pas. Je n'irai pas gouverner avec Édouard Philippe, avec Attal. Ces gens-là nous ont amenés dans le mur, et je pense qu'ils disent des choses intéressantes.
Vous n'irez pas gouverner avec eux. Vous nous dites ce matin, je n'irai pas gouverner.
Non, bien sûr.
Vous ne serez pas ministre.
Je n'y suis déjà pas allé. Hier, je n'irai pas demain. Je cherche pas des points retraite ou ni sur un CV. Voilà. En revanche, j'ai un principe de réalité. C'est que la division, l'éparpillement sur le centre, le centre droit et la droite fait perdre. Ce n'est pas à moi de délivrer des titres de compatibilité républicaine des uns ou des autres, etc. Je veux pas être assimilé au macronisme. Je ne suis pas d'extrême droite, mais viens qui veut à la primaire de droite. Viens qui veut.
Alors, est-ce que vous dites de droite ou de droite et du centre? Vous dites quoi?
De droite et du centre, si vous voulez, mais vient qui veut dans cette primaire de droite, comme il y a une primaire
alors,
de gauche qui s'organise.
Et qui vote bah, pardon,
tout le monde.
La primaire de gauche, il y a plusieurs modèles hein, de primaire. Là, en ce moment, c'est en train de virer effectivement la primaire sauvage, mais si on reprend ne serait-ce que la primaire telle qu'elle était faite pour la droite en 2016 ou la primaire de la gauche en 2011. La primaire de la gauche en 2011, c'était une primaire dite ouverte, c'est-à-dire que venait qui voulait. Mais il fallait quand même cocher une petite case qui disait qu'on se reconnaissait dans les valeurs de la gauche
bien,
et blablabla. Est-ce que vous vous dites, on fait le même principe,
voilà.
On fait une sorte de texte commun sur... C'est quoi le texte?
C'est ce que j'ai écrit, je ne veux pas vous le dire là, mais c'est de dire... Alors, est-ce qu'on va jusque...
Non, mais c'est quoi vos valeurs? C'est quoi les valeurs communes à tous ceux qui pourraient participer à cette primaire?
C'est de
refuser les extrêmes? De quoi?
Non, parce que les extrêmes,
c'est quoi le dénominateur commun, au fond?
Moi, je pense que c'est de libérer la société. En tout cas, c'est ma conviction de dire qu'on s'engage à rétablir les
comptes publics, de faire en sorte qu'on rétablisse l'ordre républicain, de trouver une vraie politique sécuritaire, de rétablir l'école, et après chacun y mettra ce qu'il veut dedans. Moi, c'est aussi simple que cela, mais il y a un principe de réalité. La réalité est en face, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien, et ça va s'accentuer à partir de décembre, c'est-à-dire que les candidats, à mon avis, liés à la Macronie s'effondreront, parce que personne n'en veut. Personne n'en veut en réalité dans le pays réel.
Est-ce qu'en vrai, David Lisnard, vous vous parlez ?
Alors, pas avec tout le monde, mais oui, moi je parlais avec certains, oui, avec Bruno Retailleau notamment. Voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez faire cette primaire tous les deux ?
Ah mais non, c'est pas une primaire.
Non. Donc, on peut imaginer que vous fassiez ça avec...
La gauche est en train d'y arriver, il y aura Mélenchon, il y aura un candidat de gauche.
Et vous parlez pas avec Édouard Philippe ?
De temps en temps. Mais il n'y a pas de problème humain, c'est pas mon souci.
Qu'est-ce qui bloque,
ces personnes-là s'imaginent que le pouvoir leur est dû. Quand vous avez été nommé et que vous êtes conseiller d'État, vous imaginez que le pouvoir vous est dû. Moi, c'est cette caste-là, je veux faire voler en éclats. Je pense qu'une primaire, elle peut révéler non seulement des propositions, mais aussi des parcours et des comportements. Le courage, qui était le thème de la REF, c'est bien, le courage dans les mots, c'est déjà un début, mais il faut regarder le courage dans les actes, dans la façon d'être, dans la façon de diriger, d'avoir dirigé des entreprises, ou d'avoir été salarié, ou d'avoir fait sa vie. Voilà, je pense qu'il faut ce grand moment démocratique qui peut être un révélateur de projets, de personnalités. Et puis moi, je vais essayer de faire une équipe de France de gens qui savent faire, de gens qui ont géré des complexités. Ce week-end, j'ai le campus de la Gagne. Écoutez, on joue à guichet fermé, je m'en réjouis. Il y a des personnes qui viennent, certaines me soutiennent, d'autres ne me soutiennent pas, mais sont plutôt des sympathisants. Mais vous verrez, des profils très différents.
Ça veut dire quoi, de la Gagne, le campus de la Gagne ?
Bah, ça veut dire qu'on peut faire gagner notre pays. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. On dit la grinta en football ou en Italie. Oui, il faut être méditerranéen.
Il y aura qui à votre campus de la Gagne ?
Ah, il y aura beaucoup
parce
de monde.
Parce que pour le coup, le campus de LFI, c'était le campus de la Gagne. Hein.
De la Gagne de quoi ?
Ah bah, l'ambiance, le nombre de personnes.
Ah non, mais ils peuvent gagner électoralement, mais ce serait la loose pour la France, en revanche. Ça, j'en suis convaincu.
Vous estimez, quand vous regardez les sondages, qu'effectivement, il est de plus en plus crédible désormais, ce duel du deuxième tour ?
Malheureusement, oui. Et puis surtout, il y a une cohérence, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et son équipe, ils sont cohérents. Je les combats ardemment, je suis aux antipodes de ce qu'ils sont et de ce qu'ils disent, mais ils ont une dynamique d'offre politique qui correspond à une sociologie, etc. Donc c'est des gens structurés, politiquement, il n'y a pas de souci. Moi, je veux les affronter, d'ailleurs, je veux les démystifier. Mais là-dessus, donc, vous verrez, vous aurez des intervenants comme de Laurent Alexandre à Véronique Geneste, Jean-Luc Borloo qui va venir, Hervé Morin, Étienne Blanc, qui est le sénateur qui est Nouvelle Énergie et qui a tant fait pour aider à lutter contre le narcotrafic. Je sais que ça va être évoqué dans quelques instants.
Sur BFM
avec
TV.
Mon collègue d'Alès, dont je salue le courage, et qui affronte, comme tous les maires, le développement de ce fléau et de cette violence.
Ça sera un des enjeux pour vous ?
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est un enjeu fondamental. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires du narcotrafic, on l'évalue à 8 milliards, en réalité, il est supérieur au budget de la justice. Qu'il y a 300 000 familles qui vivent du narcotrafic en France, il y a 200 000 forces de l'ordre en France, entre les gendarmes, les policiers, etc. Donc, on est face à un phénomène colossal, de violence, de détournement de la jeunesse, de problèmes sanitaires, ça c'est colossal.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur RMC et BFM TV. David Lisnard, il est 8h49. Dans un instant, les grandes gueules sur RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot vous attendent pour débattre de l'actualité jusqu'à midi.